Radio Bark, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Bark, c'est le 32e de cette 8e saison. Pour la première partie, et bien pour les autres également d'ailleurs, je reçois aujourd'hui Yves Penet, qui est adjoint au maire chargé de la culture pour la ville de Narbonne. Alors vous aurez remarqué, chers auditeurs, j'imagine que pendant cette période des législatives, on fait une petite pause politique, politicienne, mais on en profite pour parler de culture, et à Narbonne, il y a quand même beaucoup de matière. Donc merci Yves Penet d'être venu nous parler alors de votre délégation, mais de tout un tas de choses qui touchent le tourisme, alors la romanité peut-être aussi, mais d'autres périodes de l'histoire. Et je voudrais savoir aujourd'hui, bon, ça, on va commencer par là, lorsqu'on a alors une aglo, une ville, une aglo d'une part, et d'autre part pour la romanité, un grand secteur de l'histoire, un musée comme Narbovia depuis un an environ, la politique de la ville aujourd'hui, c'est quoi? Quelles sont les compétences qui restent, j'ai envie de dire, à une ville comme Narbonne?
Bonjour Jean-Claude Hulès, merci tout d'abord pour cette invitation. La culture et le patrimoine est quelque chose de fédérateur et qui intéresse énormément de personnes dans notre ville. Aujourd'hui, vous l'avez dit à juste titre, il y a le Narbovia, il y a l'agglomération, il y a la ville, puisque là on va parler de ce qui est propre à la ville. Eh bien, la ville, elle a un énorme morceau, si je puis dire, au niveau de la culture et du patrimoine, puisque la création de nombreux festivals, la création d'expositions, en ce qui concerne la culture en tout cas, mais également la gestion du palais musée des archevêques, de la maison traînée, et bien d'autres choses, dont la Mourguier, entre autres, au niveau du patrimoine de Narbonne. Donc énormément de choses qui font que la ville de Narbonne a beaucoup de décisions à prendre pour l'avenir, en tenant compte, bien entendu, de ces 2000 ans d'histoire de Narbonne, puisqu'il ne faut pas oublier que Narbonne a été fondée en 118 avant notre ère, et que l'histoire, au-delà de l'Antiquité, de la Romanité, il y a une très très grosse période de 1000 ans du Moyen-Âge, mais également une époque moderne, avec tout ce qui a pu se passer à cette époque moderne, et bien sûr, il y a une époque sur la proto et la préhistoire à ne pas négliger.
Alors sur le plan monumental des bâtiments, le gros morceau évidemment, c'est le palais des archevêques. Vous avez évoqué également, Yves Penet, la Mourguier. Alors la Mourguier, c'est une ancienne église qui a accueilli pendant presque un siècle les pierres romaines qu'on trouve en grande partie aujourd'hui au musée Narbovia. Alors la maison de Charles Trenet, c'est un peu plus modeste, mais c'est important également. La Mourguier, qu'est-ce que ça va devenir maintenant que ça a été vidé?
Alors la Mourguier, comme vous l'avez dit, a été vidée. Il y a une étude, un projet, une réflexion qui va y avoir autour de ce bâtiment, cette église qui était à l'origine dédiée à Marie et qui a servi à entreposer et à exposer, à mettre en valeur les 1000 et quelques blocs lapidaires de la Romanité qui ont rejoint le monumental mur du musée Narbovia. Alors la Mourguier, je ne peux pas en parler trop aujourd'hui puisque c'est à l'étude, c'est un projet, il y a des réflexions autour de la Mourguier, mais la Mourguier, en cœur de ville, dans le centre historique, doit rester vraiment un monument vivant.
Tout à côté des Halles, rappelons-le, évidemment. Alors la Mourguier, oui, finalement, c'est une renaissance, c'est une nouvelle jeunesse pour cette église, la Mourguier, qui, comme je le disais, avait été affectée à une tâche très précise, à la démolition des remparts.
Tout à fait. Ça a même été à une époque une caserne, la Mourguier. Et aujourd'hui, la Mourguier, il y a pas mal de choses à faire dedans, notamment un sol, puisqu'il n'y a pas de sol. D'ailleurs, ça a causé des petits soucis sur les blocs lapidaires. La Mourguier également, il va falloir la sécuriser à l'intérieur. Bref, faire une étude au niveau de la restauration de la Mourguier.
Oui, oui, donc c'est un nouveau destin.
Voilà, tout à fait, puisqu'on ne peut pas réouvrir un bâtiment qui est resté, j'ai envie de dire, dans son jus autant de temps. Il y a des normes de sécurité à respecter à tout niveau, de manière à pouvoir la réouvrir en toute sécurité au public.
Oui. Alors, pour la petite histoire, Yves Penet, vous avez mentionné la Mourguier comme caserne. Ça peut turlupiner les gens. Mais je crois qu'il faut savoir, vous allez me confirmer si c'est vrai, que, par exemple, les troupes napoléoniennes, lorsqu'elles se sont rendues en Espagne, ont campé ou bivouaqué, en quelque sorte, un ou deux ou plusieurs jours dans cet endroit, dans cette église.
Tout à fait. Alors, je peux pas vous le confirmer de visu, puisque je n'étais pas né.
Ah oui, c'est pas bon, moi non plus, je précise.
Mais en effet, la Mourguet, elle a une sacrée destinée. Et la dernière de ses destinées a été vraiment de faire un gros clin d'œil à ces pierres qui ont servi dans les remparts de la ville à l'époque du Moyen-Âge et qui étaient les pierres des temples romains, bien entendu, puisqu'ils ont été démantelés pour servir aux remparts et protéger la ville.
Alors, je l'ai évoqué, on y reviendra forcément beaucoup plus en détail, la naissance de ce musée Narbovia sur la Romanité a changé un petit peu la donne, puisqu'avant, toutes ces pierres, elles étaient à la Mourguet, il y avait un musée archéologique dans le palais des archevêques. C'est un changement quand même important sur le plan de la répartition des charges et des tâches.
Bien entendu, c'est un très très grand changement et j'ai envie de dire que c'est à mieux. Car la culture et le patrimoine, pour continuer à exister, à évoluer, doivent chaque fois se renouveler. Aujourd'hui, le musée Narbovia existe, il faut rendre à César ce qui appartient à César, j'ai envie de dire. C'est Georges Frêche et le professeur Jacques Michaud qui ont eu cette idée commune de faire ce grand musée autour de cette grande époque glorieuse de cette première fille de Rome hors d'Italie, qui était Narbo Martius, dédiée à ce dieu Mars. Et aujourd'hui, il est sorti de terre et bien sûr, les œuvres antiques et de la Romanité ont rejoint ce musée pour être mises en valeur. Il ne faut pas oublier qu'également dans ce musée, il y a énormément d'œuvres qui sont extraites du clos de la Lombarde.
Oui, alors ça c'était évidemment, c'est l'hommage au passage d'ailleurs, à chaque fois qu'on parle d'archéologie à Narbonne, il faut rendre un hommage à Raymond et aux époux Sabrier puisque c'est véritablement eux qui ont sauvé ce site du Clos de la Lombarde et fourni, notamment à ce musée, des peintures qui sont, paraît-il, relativement uniques.
Ah, c'est des peintures magnifiques qui font partie des plus belles, allez, on va être un petit peu chauvé, mais que nous possédons en Europe, et on n'est pas loin de la vérité. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que ce Narbovia a changé la donne, car quand des œuvres quittent leur lieu initial, il faut pas laisser ce lieu vide, il faut pouvoir le rendre accessible, le rendre visible pour le tourisme qui est une des mamelles économiques de Narbonne avec la viticulture. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui on a un très très gros projet autour du palais-musée des archevêques, ce projet qui est colossal à l'image de ce palais qui n'est ni plus ni moins que le modèle du palais des papes en Avignon quand même.
Oui, il faut le rappeler, oui, l'histoire nous enseigne que justement ce palais narbonnais a existé auparavant et que les architectes du palais des papes d'Avignon s'en sont inspirés.
Bien entendu, ça a été le modèle. Alors ce palais des archevêques, il est assez complexe à la lecture, puisqu'il y a un palais vieux et un palais neuf. Si on voudrait simplifier, il y a un côté qui serait plus Louis XIII et l'autre Louis XIV, pour simplifier. Mais c'est un palais qui également est d'une complexité au niveau des strates des étages, puisqu'il y a des demi-niveaux, au niveau accessibilité. Et là, vraiment, c'est le gros travail que nous sommes.
Oui, ça s'est fait de briques et de brocs, finalement, selon les époques.
Alors, bien sûr, puisque si on prend, par exemple, la salle des consuls, eh bien, encore une fois, ce qui fait le grand mur de cette salle du consul, ben ce sont les pierres des temples,
romain,
hein. Un morceau de rempart romain, voilà, tout simplement.
Oui, et alors, pour aider un petit peu à s'y retrouver nos auditeurs, ce que vous appelez, Yves Penet, le palais vieux, grosso modo, quand on est dans le passage de l'Ancre, c'est ce qui est sur la droite.
Exactement.
Avec la cour de la Madeleine et cette partie-là.
Tout à fait. Le palais vieux, pour simplifier, c'est la partie cour de la Madeleine et le palais neuf, c'est la partie Viollet-le-Duc, cour d'honneur, salle des synodes, salle des consuls.
Voilà, donc une partie qui s'est faite au Moyen-Âge également, mais ultérieurement.
Bien sûr.
Voilà, et donc c'est tout ça qui a besoin, enfin qui n'est pas au même niveau, et qui dans les travaux que vous évoquez, et là on va y revenir dans une seconde partie, parce que ce sont des travaux colossaux qui, j'imagine, vont changer un peu la configuration et l'allure de ce palais des archevêques, mais il faut le savoir, quoi, aujourd'hui, le défi, il est d'arriver à faire quelque chose qui va desservir l'ensemble et non pas une partie.
Tout à fait. Alors, on va y revenir dans quelques instants. Mais l'objectif, c'est de cet ancien palais où il y avait des musées, c'est d'en faire un palais-musée. D'ailleurs, à l'heure actuelle, c'est le palais-musée des archevêques et de le rendre visible aux visiteurs à l'image de la visite d'un palais. Or, je prends souvent l'exemple de Versailles. Mais visiter un palais est toujours plus intéressant, notamment quand il y a les musées en son sein, plutôt que de visiter un musée lambda. Aujourd'hui, le palais musée des archevêques, il va avoir un parcours de visite, quatre parcours exactement de visite, qui va tourner le premier autour de la proto et de la préhistoire, le second autour de l'époque, bien entendu, médiévale, depuis le 8e, c'est-à-dire à l'époque visigothique, le 8e siècle, jusqu'à cette Renaissance, un parcours art, et bien sûr, il va y avoir un parcours, tout ce qui est autour architecture, patrimoine et monumental, avec notamment ce fameux CIAP, ce centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine.
Tout ça, ça sera dans le cadre d'une seule visite, d'une même visite et d'un billet unique.
Tout à fait. Alors nous avons déjà commencé à travailler sur les billets uniques, et je reviendrai dans quelques instants, mais aujourd'hui, il y a le pass monumental Narbonne qui vous permet de visiter l'intégralité des sites, et notamment l'intégralité du palais-musée des archevêques. Alors, quand on parle du palais-musée des archevêques, il ne faut pas oublier que c'est un triptyque. Ce palais-musée des archevêques ne peut pas aller sans le cloître, que nous avons restauré d'ailleurs sur le mandat précédent, et bien sûr, notre magnifique cathédrale inachevée, avec notre splendide trésor.
Alors, inachevée, mais très attractive, apparemment.
Bien sûr, puisque c'est plusieurs centaines de milliers de touristes qui viennent visiter notre cathédrale. Une cathédrale qui a une histoire, une cathédrale qui a été meurtrie à la veille de la Révolution, dont notamment qui avait en son sein les entrailles du roi Philippe III, dit le Hardi, roi de France, qui n'était autre que le fils de Saint-Louis.
Oui, donc il reste ce prestige, alors pour les amateurs d'histoire et les amateurs, comment dire, de patrimoine au sens large.
Tout à fait. Narbonne, de tout temps, puisque c'est une ville quand même très très ancienne, pour ne pas dire très très vieille, est une ville chargée d'histoire, qui s'est construite autour du patrimoine, autour des différentes cultures. On peut remonter aux Élysiques, ce peuple qui a été chassé, on va dire, par les Romains.
Oui, après, qui a précédé l'époque romaine.
Tout à fait. Après, il y a eu cette grande époque de la Rome antique, avec tout son prestige qu'on lui connaît, avec notamment cet empereur Auguste qui aurait siégé au niveau de l'ancien des galères à la nautique. Et d'ailleurs, on se pose la question.
Il y a des fouilles là-dessus. Exactement. Qui essaient d'en savoir plus.
Puisque nous avons. Corinne Sanchez, à travers son travail formidable qu'elle fait, a découvert une villa colossale et un vivier de 65 mètres de diamètre qui ne pouvait pas appartenir à n'importe qui, si ce n'est à un empereur.
Voilà, bien sûr, cette image qui peut un petit peu laisser rêver, et probablement d'ailleurs que dans les semaines ou mois ou années qui viennent, on en saura plus sur cet endroit. On marque une première pause, Yves Penet, on se retrouve alors pour continuer évidemment à parler de la politique culturelle de la ville et notamment de son patrimoine et notamment encore du palais des archevêques.